Bonjour à tous et bienvenue au Grain de Sable, votre magazine socio-économique dans lequel on parle de ce qui se passe ici et d'ailleurs, et une émission qui est réalisée par le collectif radio de l'Association québécoise pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne ATTAC Québec. En ce moment même débute une grande manifestation contre les politiques d'austérité, des coupures et des hausses de tarifs qui apparaissent pour plusieurs comme irrationnelles et même arbitraires. Cette manifestation a lieu à Québec et à Montréal. Et vous avez présentement, il est 1h, vous avez le temps de vous y rendre pour ceux qui habitent pas trop loin du Musée national des Beaux-Arts, car le rassemblement est entre 1h et 1h30. Ça débute au Musée national des Beaux-Arts du Québec et ensuite le trajet se rend vers l'Assemblée nationale du Québec. Sinon, si vous voulez pas aller à la manifestation, on peut vous accompagner. Nous, on anime notre émission en studio aujourd'hui. Vous pouvez donc rester avec nous. On va simplement discuter d'actualités qui touchent le Québec avec Étienne Blondeau.
Bonjour.
Qui est avec moi aujourd'hui. C'est pas mal lui qui va parler aujourd'hui, en fait. Ouais. Il a suivi plusieurs conférences cette semaine. Il voulait nous en faire un petit topo avec le temps qui nous sera alloué. Et Michael Lessard, qui a suivi aussi certains points d'actualité. Moi, si j'ai deux petites minutes, je pourrais vous parler aussi de certaines lectures que je voudrais vous suggérer. Et on va aborder ensemble donc des enjeux syndicaux et évidemment les coupures et les hausses de tarifs au Québec actuellement.
On peut pas être à la manif, mais on va vous parler des sujets
pour lesquels les manifestants sont dans la rue présentement. Donc, on va débuter avec la chanson. Je dirais pas le titre. C'est
la
une surprise.
Crise.
Viendra un jour, mon patron me dira, allez, je vous augmente aussi, mais aujourd'hui je vous licencie. Quel monde on vit.
Du FMI au RMI,
de l'ISF à SDF,
des ministères à la misère,
de la CGT au MEDEF,
qu'un niveau à la tête de l'État,
un chapeau au RSA,
la franco à celle d'en bas.
Il n'y a qu'un pas.
On danse sur le monde en morceaux et la valse commence toujours sur le même tempo.
Surtout pour ceux qui connaissent la crise, je lève mon verre à votre santé, avant qu'on se fasse tous sauter.
Moi dans la vie je m'en fais pas, je bouffe des pâtes à tous les repas.
Embrasser pour moi la famille, pendant que mes frères crient à la famine.
Merci Monsanto pour tous tes beaux OGM. Merci à Quick et McDo pour nous vendre la bouffe qu'on aime.
La course à la consommation produit des sommation. Et vous qui trouvez tout horrible, moi je dis qu'ensemble tout est possible.
C'est pas grave, on vous pardonne quand tu le monde à sa perte. Bien sûr, vous avez la dame, nous on va avec les restes. Reprends une part de conneries pour le dessert. Je sais que t'en as marre, mais y'a que ça qui reste pas cher. Je vous jette pas la pierre, vous qui bossez comme des fous pour nous sortir de la galère. Après tout, j'ai voté pour vous. La croisière s'amuse pendant qu'on patoche dans la boue. Excusez-moi, j'abuse, je suis dans la merde jusqu'au cou.
Du FMI au RMI,
l'ISF à SDF.
À la misère,
la CGT au MEDEF,
qu'un niveau à la tête de l'État,
un chapeau au RSA,
la franco à celle d'en bas.
Il n'y a qu'un pas.
On danse sur le monde en morceaux et la valse commence toujours sur le même tempo. Alors on danse sur le monde en morceaux, après tout quelle importance, pour nous c'est pas nouveau.
touchera pas. Et oui, je vis au crochet de l'État. Je m'en fous, je peux planter ma société. On fera tourner la planche à billets. Sans parachute, c'est le crash assuré. À moins d'être un bon pote à clavier. Le fait du roi est devenu loi. Et ça se passe juste en bas de chez moi. Merci aux ministres de l'ouverture qui ont fait de la France une caricature. Merci à tous de nous prouver que vous êtes tous dans le même panier. J'aurais voulu être socialiste si j'écoutais mes rêves d'enfant. Mais tous ces beaux noms sur les listes sont dans le cimetière des éléphants.
En basse durée t'es comme hiver, y'a pas de saison pour la galère. Pour les vacances on reste chez nous au prix de l'essence, faut créer à tout. Et expliquez-moi, vous à la tête de l'État, je comprends pas, j'ai pas fait Sciences Po ou l'ENA. Merci aux puissants pour les 1%, j'en demandais pas tant, moi RSA m'attend. De toute manière qu'est-ce qu'on y peut, on est pauvre avant d'être vieux. Prends les choses du bon côté, on est vivant, qu'est-ce que tu veux de mieux.
RMI, ORMI,
de l'ISF à SDF,
des ministères à la misère,
de la CGT au MEDEF,
du caniveau à la tête de l'État,
de chapeau au RSA,
de la France à celle d'en bas.
Il n'y a qu'un
pas. Sur le monde en morceau, et la valse commence, toujours sur le même tempo. Alors on danse sur le monde en morceau, après tout qu'elle pense, pour nous c'est pas nouveau.
Le pouvoir d'achat est en tête ferme. Ils vont relancer
l'investissement.
Paradis fiscaux, paradis fiscaux et bancaires.
Déconnecter de la réalité, surtout ne pas se faire
céder à la sinistre.
C'était la chanson La crise du groupe français L'homme parle. Ce groupe est vraiment un nouveau groupe qu'on a découvert sur YouTube cette semaine. Donc c'est des gens qui ont décidé de créer une chanson sur la crise parce qu'ils la vivent tous et ils ont enregistré ça dans leur salon. Donc c'est très convivial, familial même. Il y a une petite fille qui danse dans le vidéoclip. C'est très chouette.
Et même s'il s'appelle L'homme parle, c'est un travail d'équipe.
Oui.
J'aime beaucoup.
L'homme avec un grand H, donc l'humanité. Là. OK. Donc, Étienne, tu voulais nous parler du syndicalisme.
Oui, c'est que je suis allé à une conférence le 26 novembre dernier. C'était une conférence débat. Alors, c'était beaucoup de monde qui était dans une grande salle, la salle Hydro-Québec à l'Université Laval. C'est organisé par la chaire publique à Hélier. Le but, c'était de réunir des syndicalistes avec des critiques du syndicalisme pour qu'ils puissent discuter, présenter leurs arguments et essayer de voir où s'en va le syndicalisme. Est-ce qu'il est à la hauteur des défis au Québec actuellement? Quel sera son avenir? Moi, j'ai trouvé ça très intéressant, alors je vous en parle aujourd'hui, mais je vais d'abord parler des intervenants. Du côté des syndicalistes, il y avait Jacques Letourneau de la CSN, Lucie Martineau de la SFPQ, et il y avait, du côté des critiques du syndicalisme, il y avait Adrien Pouliot du Parti conservateur du Québec. Il y avait aussi Gilles Rancourt de Norton Rose Fulbright. Lui, c'est un avocat qui conseille les patrons normalement dans des négociations avec les syndiqués. Et il y avait aussi, dans une position neutre, Laurence Léa Fontaine de l'UQAM pour amener des statistiques intéressantes sur le syndicalisme. Alors, la question, c'est que actuellement, il y a une espèce de lutte pour l'opinion publique. Les syndicats sont souvent critiqués. Est-ce qu'ils sont déconnectés du public? Est-ce qu'ils sont déconnectés des jeunes? Ou alors, est-ce que leur travail est bénéfique pour l'ensemble de la société? C'est vraiment là-dessus que se posait le débat. Le mouvement syndical, est-ce qu'il défend les privilèges qui sont absents chez la plupart des gens? Alors, le débat a été lancé là-dessus parce que les contribuables, eux, qui sont taxés ou qui ont des hausses de frais, surtout en contexte d'austérité, risque de se tourner contre les syndicats s'ils les voient comme simplement des défenseurs de privilégiés.
Du statu quo, là, c'est ça. Il y en a beaucoup qui, présentement, justifient justement les mesures d'austérité par le fait que les syndicats, en bon français, « jam
».
toute transition possible. Donc, c'est un peu le discours, finalement, de la droite, mais... qu'on entend à la CAQ, on entend ça aussi dans la droite, le centre-droit, dans l'opinion,
oui.
Je pense, dans beaucoup de gens qui pensent que les syndicats bloquent actuellement la transition vers une société plus, on va dire, efficace.
Mm-hmm. Et chez beaucoup de chroniqueurs de journaux aussi, on voit cette opinion-là. Alors, les syndicalistes, eux, sont présents dans la lutte contre l'austérité. On a la CSN qui a joué un rôle dans la manif qu'il y a actuellement. Et ils en ont parlé de cette manif-là pour dire que c'était pas qu'une union de syndicats. C'est aussi tous les groupes et les associations du Québec qui essaient de s'unir pour faire passer leur message. C'est pas comme les syndicats qui travaillent pour leur privilège déconnectés de tout le monde, cette manif qui a lieu aujourd'hui. En fait, c'est ça, la syndicaliste Mme Martineau, elle avait tendance à dire, pour ce qui est de l'austérité qui veut répondre pour ce qui est des privilèges des syndiqués, on n'a pas d'argent. Elle, sa réponse, c'est qu'il y a toujours de l'argent, simplement qu'il y a des choix politiques qui fait qu'on va pas prélever des revenus ou qu'on fait des dépenses inutiles. Elle a mentionné le fait qu'on règle toujours pas le dossier des paradis fiscaux, on en a parlé ici. Il y a aussi les GES, les gaz à effet de serre, qu'on décide de ne pas taxer, alors qu'on pourrait le faire. Il y a beaucoup de gens qui le proposent. Il y a aussi le fait que le gouvernement du Québec a dilapidé plein d'argent dans des projets pour informatiser les services publics et que ça a été un vrai gouffre financier. Il y en a certains qui pensent qu'il faudrait faire une commission d'enquête, et que c'est aussi urgent de s'informer sur où est allé l'argent qu'admettons dans le domaine de la construction. Il y a aussi été mention de ce projet-là que j'ai entendu du côté de Québec solidaire, en fait, en premier.
Par informatique, je pense que tu veux dire les consultants en informatique que les ministères vont engager, par exemple.
Oui, entre autres, mais il y a aussi des projets pour informatiser ce qui est, au moment où on se parle, sous la forme de dossiers papier, là, je pense, du côté du ministère de la Santé, tout fonctionne en papier, ils essaient de moderniser ça. C'est juste que ça coûte des montants d'argent, des montants faramineux, là, étrangement. Alors, pour les médicaments, il y a ce plan-là pour lequel la syndicaliste qui s'exprimait était pour cette idée-là, c'est d'avoir un acheteur unique pour tous les médicaments au Québec.
Mm-hmm. Pour... Ça, l'Agence médicaments du Québec, là, dont on parle beaucoup, qui permettrait d'économiser... je pense de réduire du tiers le prix des médicaments.
D'un bon montant, je me souviens pas de la proportion exacte, mais c'est sûr que tout ce que je vous énonce là, c'est des exemples de revenus ou qui ne sont pas pris et de dépenses qui sont sur lesquelles on n'économise pas.
Sans compter aussi les différents paliers d'imposition qui pourraient être mis en place. Là. Plutôt que d'en avoir trois, on pourrait aussi en avoir une dizaine.
Ouais. Dans le fond, on pourrait dire que c'est toujours les mêmes qui payent l'austérité. C'est rare. Parce qu'on n'a pas l'impression que les grandes entreprises ou... on ne sait pas trop c'est quoi un riche au Québec, semble-t-il. Ils nous disent qu'il n'y a aucun riche au Québec. Mais la question se pose quand même. Mais il y a des multinationales qui travaillent ici.
Hein. C'est vrai que j'avais déjà posé la question une fois à une attachée politique libérale. Je ne me souviens plus c'était quand, mais je pense que c'était l'attachée de l'ancien ministre des Finances. Là, elle m'avait répondu qu'il n'y avait pas de riches au Québec, donc on ne pouvait pas les imposer.
Oui, mais pourtant, j'ajouterais à ça, avant de te remettre la parole, Étienne, je ne sais pas combien d'argent le Québec donne aux compagnies pétrolières, par exemple, ou à l'industrie du pétrole en général. Une industrie que je pense que, dans l'opinion publique, je crois qu'on est d'accord qu'elles n'ont pas besoin de notre argent et qu'on est censé arrêter de les financer pour mettre notre argent ailleurs, dans les énergies plus vertes. Cette transition-là ne se fait pas du tout. Donc, il y a des millions, voire des milliards, et les chercheurs ne sont pas capables d'avoir les chiffres. Les chiffres sont extrêmement difficiles à obtenir. Donc, on donne des centaines de millions, et peut-être même des milliards à l'industrie pétrolière.
Bien, c'est intéressant que tu mentionnes ça, le fait qu'on n'a pas accès aux chiffres d'affaires ou au bilan financier du côté des compagnies privées, parce que souvent, c'est une accusation qu'on fait du côté des syndicats. Leurs opérations et ce à quoi sert l'argent de leurs cotisants, on leur reproche leur manque de transparence, mais en fait, du côté des entreprises ou des patronats aussi, il y a un manque de transparence. Par exemple, si une compagnie veut faire des mises à pied il dit au syndicat, ben il dit toujours le même genre de choses, ben on n'a plus d'argent, tu sais, c'est, on fait des compressions parce qu'on y est forcé, mais ils n'ouvrent pas leurs livres, ils vont pas faire preuve de transparence pour comme prouver qu'ils sont réellement dans une situation difficile financièrement. Et c'est ça, il y a aussi le fait que les syndicats, eux, font cet effort. On avait les syndicalistes qui étaient présents, qui c'est ça, disaient que sur leur site Internet, ils vont essayer de rendre public les chiffres de l'utilisation de leur argent, qui sert pas juste à recruter d'autres membres, ça peut aussi servir à faire avancer des causes sociales, faire avancer des causes sociales parce que, et il citait Michel Chartrand là-dessus, là, faut pas uniquement défendre les privilèges des travailleurs en vase clos parce que le travailleur est aussi un citoyen. En fait, dès qu'il sort de l'usine, dès qu'il sort de son commerce, il est un citoyen. Il faut s'assurer de son bien-être dans la société en général. On peut pas travailler au bien-être des travailleurs en vase clos. Quand bien même qu'il y aurait des critiques des syndicats qui voudraient faire une démarcation nette entre un travail des syndicats qui serait que pour le milieu de travail plutôt que se soucier de leur vie en général.
Donc, on a aussi la possibilité d'aller en musique présentement. Donc, on va prendre une petite pause puis on revient ensuite. Ouais.
Je suis le premier à moquer, mais je suis le premier à faire, à l'inverse de mes discours, tout est son contraire. Je suis le premier à redire, le premier à rechigner, à crier sur tous les toits, fais pas ci, n'achète pas ça. Mais moi j'ai un espace Renault, car j'ai déjà un Marot. Moi j'ai un frigo high-tech, où je peux ranger 6 pastèques. Moi j'ai une Honda 500, que même je peux faire du 200. Moi j'ai un autoradio étanche à l'eau, 3 télé à écran plat, parce qu'il y a 3 chambres chez moi, un PC pour elle et moi.
Quand on se Facebook, c'est sympa.
Un troisième pour la gamine, bah oui, quand même, c'est plus intime. Une ribambelle de disque dur, en cas de coup dur, car comme dit l'autre,
si le client est roi, il a le droit d'être le roi des.
Soyons cons jusqu'au bout, soyons fous jusqu'au trognon. Nos cerveaux sont disponibles et nos portefeuilles sont accessibles. Soyons cons jusqu'au bout, soyons fous jusqu'au trognon. La révolution high-tech nous a-t-elle fait perdre la tête? Moi j'ai mis l'appli iPhone, rien que pour la déconne. Mais j'ai pas encore l'iPad, quoi qu'à crédit c'est peut-être jouable. Moi j'ai un 4x4 bleu gris, depuis que j'habite à Paris. Moi j'ai la clim dans les toilettes,
depuis je me sens mieux dans ma tête.
147 films récents, que je regarde pas, j'ai pas le temps. Tous les derniers best-sellers, conseillés par ma belle-sœur. Le live intégral de Johnny, en Blu-ray au défini. Sur mon bel écran plasma, le stade de France chez moi. Soyons cons jusqu'au bout, soyons fous jusqu'au trognon. Nos cerveaux sont disponibles et nos portefeuilles sont accessibles. Soyons cons jusqu'au bout, soyons fous jusqu'au trognon. La révolution high-tech nous a-t-elle fait perdre la tête? Moi j'ai ci, moi j'ai ça. Moi j'ai ci, moi j'ai ça. Je suis le premier à moquer, mais je suis le premier à faire, à l'inverse de mes discours, tout est son contraire. Je suis le premier à redire, le premier à rechigner, à crier sur tous les toits, fais pas ci, n'achète pas ça.
Mais moi j'ai une assurance vie, avec forfait illimité, pour le jour où vous serez en deuil.
Que tout ça tienne dans mon cercueil,
jusqu'au bout, faut jusqu'au trognon.
Car c'est à moi,
jusqu'au bout, faut jusqu'au trognon.
Rien qu'à moi,
jusqu'au bout.
Car c'est à moi, la 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 la,
soyons fous. C'était Soyons fous de Letty Nassel. Donc, Étienne, nous concluons notre petit résumé de la conférence que tu as été écoutée sur le syndicalisme à l'Université Laval.
Oui, je vais retourner sur le fait qu'il était question des défis qui sont posés et qui sont sur la route des syndicats d'aujourd'hui. Le premier défi, en fait, c'est que les taux de syndicalisation ont tendance à baisser. Ils ont tendance à baisser partout, même en Scandinavie, là, dans les pays scandinaves. Il y a plus de personnes qui sont syndiquées qu'au Québec. Et au Québec, on est plus syndiqués que dans le reste de l'Amérique du Nord. Mm-hmm. Donc, même si les syndicats québécois sont dans une position privilégiée, notamment par des lois qui aident à la syndicalisation et à l'adhésion de nouveaux membres, en fait, ils sont en difficulté. Ils ont comme cette espèce de perte de vitesse-là. Mais moi, ce que j'ai lu, c'est que j'ai lu ça dans des médias américains. C'est que dans l'histoire du syndicalisme, on voit jamais de syndicats qui ont des adhésions comme par petites bouchées, en fait. C'est des grandes vagues de fond où des industries entières et tout d'un coup sont syndicalisées. C'est pour ça qu'il faut une espèce de mouvement social un peu plus large si on veut que la syndicalisation reprenne la vigueur ou ait plus d'adhésion. Mais bon, pour retourner du côté des critiques des syndicats qui étaient présents à cette soirée-là, ils relevaient que, en fait, les syndicats classiques vont être en difficulté pour convaincre les jeunes qui n'ont pas tellement d'espoir d'avoir les privilèges qu'ont les syndicats actuels, par exemple, d'être défendus pour leur ancienneté ou d'avoir
une retraite. Si je peux me permettre de mentionner juste une parenthèse, c'est qu'une des raisons pour lesquelles le taux de syndicalisation baisse, c'est parce qu'il y a une augmentation des emplois précaires, puis les emplois qui étaient avant plus stables à long terme, tu vas entrer dans une entreprise, puis tu vas rester pendant des années, sont de plus en plus réduits, coupés, où les gens ne sont pas remplacés, ce qui fait que finalement, ces emplois-là, à temps partiel ou sur appel, ou à durée indéterminée, à durée déterminée, ce que je veux dire, font que les gens peuvent difficilement gagner de l'ancienneté, difficilement acquérir des droits et finalement être syndiqués.
Oui, puis dans le cas américain, c'est surtout que la syndicalisation là, qui se fait par vague, comme je l'ai dit, n'a pas suivi la création des emplois dans le domaine des services. Donc, c'était surtout dans les usines qu'il y avait des syndicats. Et quand tout le milieu du commerce et des services s'est développé, les syndicats n'étaient peut-être pas présents au front pour suivre le mouvement et intégrer tout ce monde-là. Mm. Bon, donc, je disais, les critiques des syndicats, eux, voulaient que les patrons soient aussi entendus, que ce soit possible, qu'ils donnent leur opinion lorsque ça commence à parler de syndiqués sur place. Wow. Le problème, c'est que les patrons, les compagnies ont tendance à être fortement antisyndicales et à être peut-être à l'attaque sur ce niveau-là. Par exemple, on a des couche-tard qui préfèrent fermer puis rouvrir pas si loin parce que leurs employés étaient sur le point de se syndiquer. Donc, c'est pas des questions financières s'ils réouvrent.
Mais c'est comme si on oublie des fois à quoi ça sert un syndicat à la base. Ouais. Donc, c'est supposé être la négociation collective. Je veux dire que t'as pas un individu à côté de toi qui connaît le patron puis qui va négocier à la pièce, ou t'as pas un sous-syndicat patronal qui retire des bénéfices puis toi t'es le syndicat trou du cul à côté. C'est une négociation collective. Donc, ça évite que des gens qui se retrouvent avec des salaires moindres puis des conditions inférieures cachées dans un coin. Là.
C'est reprendre un pouvoir sur son existence. C'est du monde qui sont des collègues, donc qui se connaissaient probablement pas avant d'être employés quelque part, qui se ressemblent pas tant que ça, mais qui quand même voient leurs intérêts, qui peuvent voir des intérêts communs et se découvrir une solidarité entre eux et tisser des liens. C'est quasiment un microcosme de la politique en général, la syndicalisation.
Mais aujourd'hui, on croit plus trop au collectif. Hein? J'ai l'impression que le bien commun, la force du collectif, c'est un peu vieux jeu, un peu passé date. Là. On est dans l'ère du self-made man.
Oui, d'ailleurs.
L'État réduit. On oublie l'État-providence. C'était. Voilà. Donc, on conclut maintenant.
Oui, c'est ça. Donc, les syndicats vont devoir faire face à l'individualisme, finalement. Pour dire ça en un mot. Là.
T'es vieux, tu les traites d'enfants rois, des vieux. Quand tu méprises leur vie, leurs droits, des vieux. Quand tu leur caches la vérité, quand tu refuses de négocier, des vieux. Quand tu bafoues leur liberté, des vieux. Quand tu manques de sincérité, des vieux. Au nom de la démocratie qui tourne autour de ton nombril, je n'ai jamais été aussi fier de cette brillante génération qui me fait rêver les yeux ouverts, unis pour la révolution. Tu peux garder ta muselière, ta loi honteuse et bananière. Même si tu nous fais vivre l'enfer, tu pourras jamais nous faire taire. T'es vieux. Quand tu joues à l'indifférence, t'es vieux. Quand tu épuises ta patience sur eux. Quand tu te moques de leur enfant, quand tu abuses de ta puissance, t'es vieux. Quand tu renonces au printemps, t'es vieux. Quand tu ne vis plus au présent, t'es vieux. Quand tu ne fais plus la différence entre les bons et les méchants. Je n'ai jamais été aussi fier de cette brillante génération qui me fait rêver les yeux ouverts, unis pour la révolution. Tu peux garder ta muselière, ta loi honteuse et bonne amière. Même si tu nous fais vivre l'enfer, tu ne pourras jamais nous faire taire. Il nous reste un pays à faire, même si on doit partir en guerre, sortir un jour de la misère, plus jamais revenir en arrière. Je n'ai jamais été aussi fier de cette brillante génération qui fait les choses à sa manière. Le temps leur donnera raison, peut-être aux prochaines élections.
Je n'ai jamais été aussi fier.
CKRL.qc.ca.
Depuis 2008, la mesure Première Ovation aide les talents émergents du Québec en leur donnant les moyens de créer, de profiter d'encadrement et de vivre leurs premières expériences professionnelles. Couvrant 8 disciplines artistiques, les actions de Première Ovation contribuent également à une meilleure diffusion des créateurs et favorisent l'accès au spectacle de la relève. Découvrez les programmes offerts sur premièreovation.com.
Aimez la page Facebook du Triplex Suspendu et courez la chance de gagner une soirée VIP pour deux. Je t'en dis pas plus car c'est complètement fou, délicieux et déshydratant. Pas game, vas-y, cours le risque. Aime Facebook, le Triplex Suspendu, l'endroit idéal pour les parties de Noël et les parties de bureau.
Au prochain tirage du loto 649, il y a un billet parmi tous les billets qui va valoir $1 million garanti. Et ça, c'est en plus du gros lot qui est évalué à 25 millions.
Cette semaine, en nouveauté au cinéma Le Clap, voyez...
Les aventuriers voyageurs présentent Guatemala, le festival roumain, Liedenfeld, une histoire d'amour, la marche à suivre, les pingouins de Madagascar, les 13e sommets du cinéma d'animation, la théorie de l'univers... Les yeux jaunes du crocodile.
Rendez-vous au clap.ca pour obtenir le synopsis, les bandes annonces et l'horaire complet des films. Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs.
89.1.
Les chars soviétiques entrent dans Budapest.
Un deuxième char le suit de près.
Oui, mais ça y est, écoute, il vaut mieux pas moi se camoufler parce que vraiment c'est extrêmement dangereux.
CKRL.qc.ca.
Vous entendez de temps en temps les 8 balles qui tapent.
De retour au Grain de sable. Mon Dieu, je pensais pas que ce serait si rapide. Donc, vous êtes à l'émission Le Grain de sable et on a parlé de syndicalisme. On va maintenant laisser Michael nous présenter quelques petites nouvelles qu'il trouvait croustillantes pour cette semaine.
Oui, bonjour tout le monde. Donc, essentiellement, aujourd'hui, par rapport à l'austérité, il y a un sujet assez pertinent, assez direct. On a l'abolition des agences de la santé et la fusion des établissements régionaux. En fait, c'est le regroupement des organismes communautaires de la région 03 qui représente quand même 200 organismes communautaires œuvrant principalement en santé et services sociaux de la région. Ils ont joint leur voix au Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches de la CSN pour demander le retrait du projet de loi 10. Donc, évidemment, loi 10, on parle de l'abolition des agences de santé, fusion des établissements régionaux. Leur point de vue, c'est que ça va amener, selon eux, des obstacles supplémentaires à l'accès aux services sociaux et aux soins de première ligne. En fait, je les cite, « À nos yeux, il est évident que ce projet de loi a comme véritable objectif de s'accaparer l'ensemble des pouvoirs de gestion du réseau au détriment d'une gestion régionale et locale. Il prévoit que cette restructuration drastique va faire en sorte que les prochaines années seraient passées à réorganiser l'ensemble du réseau au lieu d'offrir les services directs à la population. » Les organismes communautaires aussi, évidemment, ils craignent que ça va les amener à dispenser à rabais les services publics en santé qui auront été coupés. Et en conclusion, les deux regroupements demandent une consultation populaire, voire même un référendum, avant d'appliquer, je cite, une réforme de cette ampleur dont il n'a jamais été question, de près ou de loin, lors de la campagne électorale. Mais juste conclure rapidement, là, je rappelle que la CSN, ça représente environ 240 syndicats, 45 000 membres, et le ROC 03, 200 organismes communautaires.
Je terminais, Michael.
Non, non, je vous donnais la parole.
OK, c'est bon. Je vais la prendre, tiens. Je voulais juste vous dire, vous partager une information que j'ai trouvée dans le rapport d'attaque qui est sorti là, récemment. C'est le rapport d'activité de l'association pour 2013-2014, dans lequel Claude Vaillancourt dit que l'inspiration du premier ministre Philippe Couillard pour toutes ces réformes-là, c'est le livre « The Fourth Revolution, The Global Race to Reinvent the State » qui a été publié à Penguin Press. Donc, ça a été écrit par deux des patrons de la revue, de la très célèbre revue The Economist, pour ceux qui connaissent un peu l'économie, John Micklethwaite et Adrian Wooldridge, si je ne massacre pas leur nom. Donc, ce sont les deux auteurs de ce livre-là. Et leur objectif, donc, c'est un État maigre qui accepte ses limites, ne promet plus tout et utilise la technologie pour rendre ses processus plus efficaces. Et en cherchant sur Internet un résumé de ce livre-là, je suis tombée sur un résumé qui a été publié sur vigile.net. Je suis pas toujours d'accord avec ce qui est écrit sur vigile.net, mais il y a quand même un bon résumé qui a été publié. Et dans le fond, on y explique là, les principaux fondements idéologiques de ce livre-là. C'est un article qui est vraiment plus d'informations que d'opinions. Donc, je le mettrai sur la page Facebook pour ceux qui veulent le lire. Ça explique que les syndicats sont un obstacle à la modernisation et qu'on s'inspire du modèle asiatique qui est comme... les Asiatiques sont bien fiers c'est, présentement, surtout à Shanghai, en Chine, qui est une ville-État, on pourrait dire, où il y a un dirigeant qui s'appelle Li Quan, qui est président de Singapour et il semblerait que cet homme-là est aujourd'hui un gourou très à la mode parce qu'il a apporté un nouveau modèle basé sur comme une espèce de combinaison entre le capitalisme et le communisme où dans le fond on impose les règles du marché de façon autoritaire finalement. Donc ce serait la nouvelle mode. Fait qu'on a un premier ministre quand même pas mal au fait de ce qui se fait en économie actuellement, dernier cri. Mmh. On peut être fier. Il y a donc un bouquet de mesures anti-Léviathan qui sont mises en œuvre présentement. Et c'est ce à quoi on assiste. C'est donc la quatrième révolution. Donc, je vois pas pourquoi il y a des gens dans la rue. Là. Je vois pas ce qu'ils ont à faire là, ces gens-là. Non, en fait, donc on pourra en discuter un peu plus là, sur le plan des idées, ce que ça implique. Pour l'instant, je vais vous laisser la parole, cher collègue.
Ben, un des problèmes, c'est qu'il y a beaucoup de ballons qui sont lancés, là, beaucoup d'hypothèses. Le gouvernement fait des menaces de coupure à gauche et à droite, et des fois on s'y perd même, on ne sait même plus qu'est-ce qui a réellement été coupé, et j'entends ça des gens qui me parlent sur la rue ou ailleurs, là. Des fois on ne sait plus qu'est-ce qui a été coupé, qu'est-ce qui est supposé l'être, c'est vraiment confondant. Mais il y a une chose qui est réelle, on sait qu'en janvier, les tarifs de garderie vont augmenter de 2 à 3 fois dans certains cas. Les familles qui font 200 000 et plus vont payer 21 $ au lieu de 7 $. C'est une augmentation donc 3 fois, c'est environ 4 000 $ par année. Puis j'ai un ami qui est conseiller financier justement pour des gens que nous on considère riches, mais eux se considèrent pas riches. C'est sûr que c'est relatif là. En comparaison à moi, sont très riches. Mais pour une famille qui fait 200 000, 4 000 $ tout à coup de plus, c'est quand même surprenant. C'est à peu près 2% si mon calcul est bon de leur budget. Et le résultat, c'est que lui leur conseille d'aller vers les garderies privées. En disant, ben tu vas avoir un retour fiscal, tu as une déduction fiscale sur qu'est-ce que tu payes en garderie privée. Donc, les gens se demandent si c'était pas ça la stratégie du gouvernement. Certains voient ça comme une forme de privatisation, d'autres voient ça comme une manière de pousser les gens vers le privé pour libérer de la place au public. C'est très discutable, mais c'est sûr que le gouvernement lance toutes sortes de ballons et on n'est pas trop sûr des fois quels sont leurs véritables objectifs. C'est ça. Donc, je ne sais pas si vous avez une opinion là-dessus.
Ben moi, c'est toujours mon opinion quand je vois les mesures d'austérité. L'État recule, l'État fait moins, mais la question, c'est toujours qui attrape au vol ces services-là qui ne sont plus pris en charge par l'État. Et j'ai l'impression que les services qui sont profitables, dans lesquels il y aurait des bonnes occasions d'affaires, c'est repris par le privé. Et comme tu le mentionnais, pour des organismes et associations plutôt, c'est peut-être elles qui se retrouvent à récupérer, malgré elles et alors qu'elles ont des moyens limités, qui se retrouvent à récupérer les services qui sont pas profitables, qui feraient pas, je sais pas, saliver des compagnies ou quelque chose comme ça. Alors, on se demande si c'est pas l'objectif recherché au départ.
Mais on sait que les garderies, c'est quand même une bonne partie significative de l'économie dans toute société, j'imagine, mais au Québec en particulier. Et tu me disais tantôt, justement, tu nous parlais durant la pause des garderies qui sont plus d'économie sociale.
Oui, j'avais vu un conférencier qui avait travaillé pour Desjardins il y a quelques décennies, qui lui disait que, en fait, les CPE au Québec, c'était un fleuron d'économie sociale et des coopératives. C'était comme dans la mouvance, par exemple, la marche qui s'appelait, je pense, du pain et des roses, des femmes qui veulent qu'on mette en valeur le travail ou qu'elles font ou l'apport ce qu'elles apportent à la société, alors que c'est pas des emplois traditionnels ou des services rémunérés traditionnels. Donc, la garde des enfants, par exemple, ils voulaient que ce soit reconnu à sa juste valeur, et aussi les CPE, c'est ça, se créait, c'est un bel exemple d'économie sociale, des personnes qui s'organisent et qui veulent rendre un service, qui veulent rendre service à leur communauté. C'est comme ça qu'ils s'exprimaient.
Mais souvent, ce qui arrive quand l'État se désengage, c'est qu'il y a quand on dit le privé, ça peut être du semi-privé, comme je sais, par exemple, que Desjardins, les caisses Desjardins et les fondations dans le domaine communautaire se mettent à remplacer des subventions qui venaient de l'État. Parce qu'il faut bien aller chercher les sous quelque part si on veut maintenir les services qui sont offerts à la population. Donc, ça vient du privé. Fait que les choses se réorganisent autrement. Puis c'est un petit peu la vision qu'ont les initiateurs de cette politique-là. C'est que les gens vont se réorganiser, il va y avoir plus de liberté, peut-être que même un idéal démocratique pourra reprendre. Mais le problème, c'est que si il n'y a pas de volonté commune, un idéal commun, actuellement, on n'a pas de projet de société au Québec, là. Puis s'il n'y en a pas, on ne peut pas construire ensemble des services qui vont être, on va dire, intelligents, là. Il faut qu'il y ait une vision commune pour que toutes ces choses-là s'harmonisent. Sinon, tu as des doublons, tu as des trucs qui sont... En fait, mais je veux pas commencer à patauger là-dedans. Là.
Ouais. Ben, c'est bien que les communautés ou les groupes s'organisent par eux-mêmes, aient une certaine autonomie et trouvent des manières de fonctionner selon leurs propres besoins, mais le problème, c'est que ça arrive dans un contexte d'austérité où ils doivent se réorganiser et improviser quasiment d'une manière catastrophique, soudaine. C'est un peu moins désirable, je pense.
Mais la critique des mouvements sociaux et des gens qui manifestent aujourd'hui, c'est que on va appeler ça un grand manque d'imagination. dans les revenus de l'État. Donc, on a le sentiment que là où il y a de l'argent, on n'ose pas les toucher. Puis on a l'impression que ça sert des intérêts, que c'est des amis, que la gouvernance, en tout cas, les politiciens, certains politiciens semblent amicales, disons, avec les gens, les multinationales ou les gens simplement qui ont du revenu, et que c'est toujours les mêmes qui ont à se serrer la ceinture. On finit par se demander si on ne devrait pas leur donner notre ceinture tant qu'à être. Mais je pense que c'est ça qui est beaucoup qui est mis de l'avant. Et il y a une campagne, par exemple, 10 milliards de solutions. Où on nomme différentes mesures fiscales. Vous avez parlé tantôt justement d'ajouter des paliers d'imposition. C'est juste. Puis en plus, c'est drôle, c'est dans l'augmentation des paliers d'imposition, la plupart des gens paieraient moins d'impôts parce que c'est plus progressif. C'est drôle. Ouais. Hein? Et bon, évidemment, arrêter de financer les pétrolières. Il y a plusieurs stratégies possibles. Vous en avez nommé aussi aujourd'hui.
D'augmenter, je pense, l'imposition des minières de 13 à 15 suffirait par aussi exemple, à aller chercher les revenus qui sont allés chercher avec les coupures ou la réduction des bourses pour les étudiants. En tout cas, j'ai vu ça cette semaine. Là.
Puis évidemment, excuse.
Non, vas-y, Michael.
Excuse. Mais il y a aussi que la population constate, ça, c'est pas les mouvements sociaux ou la gauche, c'est vraiment, c'est visible. Il y a quelque chose d'un peu improvisé. On a l'impression que ça, c'est pas très réfléchi. Il n'y a pas de consultation et on ne sait pas trop d'où ça sort des fois leurs idées. Par exemple, le ministre Barrette de la Santé a décidé maintenant que les médecins devaient suivre 1000 patients. Sinon, ils se faisaient réduire ils vont se faire réduire leur salaire de manière assez radicale, alors que la moyenne des médecins actuellement, ils suivent environ 500 patients. Donc là, tous les niveaux médicaux, tous les docteurs à différents niveaux, autant les jeunes médecins que les anciens, que les spécialistes, disent ça nous semble impossible. Et le ministre Barrette a même avoué lui-même que il s'attend à ce que la majorité des médecins ne soient pas capables de le faire et vont donc se faire voir pénaliser leurs revenus. Maintenant, je ne dis pas qu'ils ne sont pas riches, les médecins, mais en même temps, ça travaille comme des fous, c'est sûr, les médecins. Mais le but, c'est pas ça. Qu'on soit d'accord ou non, c'est qu'il n'y a aucune consultation, aucune discussion et on sait pas d'où c'est sorti cette idée-là tout à coup.
Ouais, ça me rappelle quasiment l'Union soviétique où il y avait des légendes d'ouvriers ou plutôt de mineurs qui ressortaient avec des milliers de kilos de charbon, je sais pas quoi, ou de fer, des usines, des espèces de légendes de performance au travail impossible pour motiver les troupes ou je sais pas quoi. Ça me rappelle ça tout à coup.
Ben, en fait, c'est ironique parce que les médecins, c'est ça leur réponse. Les associations médicales ont dit, on trouve que c'est soviétique, on trouve que c'est autoritaire. C'est drôle.
Oui.
T'es arrivé à la même conclusion.
C'est stakhanovisme que ça s'appelait comme tendance, mais bon. Moi, je pense que je reparlerai rapidement des garderies que tu mentionnais plus tôt, parce que c'est un bel exemple qui fait l'envie des autres provinces canadiennes de services rendus à la classe moyenne et qui allègent leur fardeau, finalement. Et dans la soirée conférence et débat sur le syndicalisme que j'étais allé le 26 dernier, il y avait des questions de la classe moyenne, comme de quoi, selon un économiste, Godbout, je pense, en tout cas, il y a un des intervenants qui parlait de cet économiste-là, qui disait que la classe moyenne, elle existe et elle dépend de tels services. Si on peut parler de classe moyenne plutôt que de classe pauvre, dans certains cas, c'est parce qu'ils bénéficient d'un tas de services et de subventions, finalement, comme les garderies, qui fait qu'ils n'ont pas à dépenser aussi cher qu'admettons que s'ils étaient dans d'autres provinces canadiennes ou aux États-Unis. Alors, si on leur retire tous ces services-là tout à coup, je me demande c'est quelle portion de la classe moyenne qui
c'est
coulerait.
C'est pour ça qu'on parle de réduction là, de la classe moyenne. Il y en a qui disent qu'il n'y en a plus, qu'on a des écarts de plus en plus grandissants entre si on ne veut pas dire les riches et les pauvres, on peut dire différents écarts de revenus là, entre des. Donc finalement les puis ce que je disais, j'avais une discussion avec Michael avant l'émission, puis ce que je disais, c'est souvent les gens se conçoivent pas dans une classe sociale. On se dit pas, moi, je suis pas de la classe moyenne, je suis pas pauvre, puis je suis pas riche, là, je suis juste moi, puis je gagne ma vie, puis je suis bien correct, puis je suis honnête, puis bon, je travaille, je fais ma vie. Ouais. Donc, les gens ont pas nécessairement conscience que certaines politiques atteignent leur budget, puis que c'est voulu, c'est pensé, c'est compris, là, tu sais. Ouais. Finalement, dans les services publics servent justement à permettre à tous d'avoir plus d'égalité des chances, pas d'égalité absolue, mais l'égalité des chances d'avoir accès à éducation, services de santé, services de garderie, tout ça. Mm-hmm. Et c'est pour permettre justement de créer de la richesse que ces services-là existent. Donc, on parle beaucoup de créer de la richesse, on parle de performance, mais finalement, on oublie que les fondements même de cette création de richesse-là, c'est la personne, c'est l'humain, c'est l'enfant, c'est sa croissance, c'est son apprentissage. Donc, tous les services qu'on offre à nos citoyens pour qu'ils puissent grandir, puis se faire une tête sur les enjeux qui les concernent, c'est pas des surplus de gras dans lesquels il faut couper quand on n'a plus d'argent, là, parce que c'est la première source de richesse qu'on a dans un pays. Mm. Donc, voilà. C'était ma petite montée de lait. Je voulais juste vous mentionner qu'il y avait un rapport qui était sorti de l'IRIS qui s'appelle « L'état de la dette au Québec » en 2014, qui explique un petit peu... comment on calcule la dette et les différents pièges liés à l'obsession qu'on a actuellement sur la dette, que je vais mettre en ligne sur notre page Facebook. Donc, on s'en va en musique, Mickaël?
Oui, bien sûr.
Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, d'un regard alléché, lui tient à peu près ce langage. Comment je dois faire? Quelles sont mes options? Ici mes attentes sont bercées d'illusions. Je n'ai pas trouvé de solution à mes problèmes de toute façon.
Le corbeau lui répond: prenez une décision. Allez mon garçon, arrêtez de jouer au con. Il ne faut pas pleurer ni jouer les grognons. Vous êtes rongé par la passion.
Ok, facile à dire, mais j'ai des envies pressantes. Je vais croquer la pomme quand l'occasion se présente. Vous avez des ailes, donc une longueur d'avance. Je veux faire pencher la balance. Et passe les âges, le temps teste tes vertus.
Petit renard, il te faudra bien du courage pour pas finir perdu. Laisse passer l'orage, derrière le soleil brillas-tu. Si je te disais, tout peut changer, me croirais-tu?
Madame le corbeau, j'ai bien médité, j'ai tourné en rond et j'ai bien cogité, mais je n'ai pas trouvé de solution à mes problèmes de toute façon.
Écoutez, vous êtes grand et vous n'êtes pas un sot. C'est vous le renard, moi je suis le corbeau. Ce que j'ai trouvé comme seule solution, c'est de mettre votre histoire en chanson.
Ok, facile à dire, mais là ça se complique. Je veux le droit d'asile, un asile poétique. L'équilibre est fragile et mon cœur panique. Il voit mon art comme dramatique.
Venez donc vous asseoir près de la fontaine, comptez-nous vos déboires loin de votre domaine. Renard part en vadrouille, son terrier est trop grand pour lui tout seul évidemment.
Et passe les âges, le temps teste tes vertus.
Petit renard, il te faudra bien du courage pour ne pas finir perdu. L'espace et l'orage, derrière le soleil brille, as-tu vu? Si je te disais, tout peut changer, me croirais-tu?
À défaut du moral, au bien de la patience, faut trouver une morale au sens de l'existence. Ailleurs j'ai trouvé un petit dicton, les poules sont vaches de toute façon.
Cette fois c'en est trop, monsieur le renard, vous avez trop bu, mangez trop de caviar. Là vous êtes corrompu par le désespoir, arrêtez-vous, devenez jobard. Vos déboires sont un don, j'ai peut-être une option. Mettez votre histoire en chanson.
Mettons cette histoire en chanson. Mettons cette histoire en chanson.
C'est toujours un succès.
Yeah! À Alors, on va conclure notre petite discussion avec Étienne sur finalement la manifestation qu'il y a aujourd'hui.
Oui, moi, je pensais conclure en ramassant tous les sujets dont il a été question. On a parlé du syndicalisme et surtout de la lutte et des oppositions à l'austérité. Alors, moi, j'ai l'impression que si on résume ça à une idée, c'est quel est le lien dans notre société entre l'individu et le reste de la société? Est-ce que l'individu doit se débrouiller? Est-ce qu'il doit fonctionner seul? Est-ce que dès qu'il fait une erreur, c'est de sa faute et il doit assumer toutes les conséquences sur ses seules épaules? Ou alors, est-ce qu'il existe un filet social? Parce que c'est ça qu'on défend quand on combat l'austérité, là, le filet social. Est-ce qu'il y a un filet qui doit le récupérer quand il fait une erreur, lorsque, par malchance, en fait, il perd son emploi dans des mises à pied, que son enfant tombe malade ou qu'il y a des dépenses imprévues? Est-ce que le reste de la société va se lever, va se sentir solidaire avec lui, va l'aider à récupérer de ses problèmes et va le soutenir? Finalement, c'est de ça qui est question. Est-ce qu'on va avoir un modèle plus individualiste où c'est chacun pour soi et chacun se débrouille avec ses problèmes? Ou alors, est-ce qu'on va se tenir les coudes, comme par exemple le fait un syndicat pour les travailleurs?
Ben merci, Étienne.
Toi, tu voulais parler d'un... Tu voulais plugger, en bon français, une...
Oui, je vais faire ça vite, mais je trouve ça super intéressant et je suis sûr que vous allez apprécier. Il y a des gens de la Nation Cree qui font une marche de 800 km contre les mines d'uranium. En fait, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que les peuples autochtones du Québec en entier ont adopté une position consensuelle contre l'exploitation de l'uranium sur leur territoire. Donc là, on parle de l'Assemblée des Premières Nations, c'est une déclaration vraiment collective, puis ils l'ont même faite deux fois, pour le redire. Donc, on a reçu une nouvelle de la Coalition pour que le Québec ait meilleure mine, une coalition assez importante qui étudie ces dossiers-là, qui appuie le Conseil des jeunes de la Nation Cree, qui a débuté le 23 novembre, donc il y a 6 jours, une marche de plus de 800 km. Ils vont terminer le 15 décembre prochain à Montréal. On comprend donc que c'est une marche d'à peu près 3 semaines. J'imagine qu'ils prennent des pauses des fois.
En novembre, on s'entend.
En plus. Et donc, le 15 décembre, c'est la dernière journée des consultations du Bureau d'audience publique sur l'environnement, le BAP, concernant les enjeux de l'uranium. Mm.
Et je sais que tu n'as vraiment pas beaucoup de temps pour nous en parler, mais d'ailleurs, tu n'as pas le temps de nous expliquer. Bon, alors, passons tout de suite aux événements engagés de la semaine.
Tu peux voter, pétitionner, débattre à la télé ou gamberger sans te bouger, mais...
C'est dans la rue que ça se passe. C'est dans la rue que ça se passe. C'est dans la rue que ça se passe.
À toi, Michael.
Oui, excusez-moi.
Ça se passe quand il se passe quelque chose. Un bulletin dans une boîte, ça change pas grand-chose. C'est dans la...
Oui, voilà. J'ai maintenant les événements devant moi. Donc, je vais faire bref, mais comme vous le savez peut-être, il y a eu un crime assez grave au Mexique qui interpelle beaucoup de gens. Et donc, c'est des gens d'un collège dans un village qui s'appelle Ayotzinapa. 6 assassinés, 43 disparus, 27 blessés. Et par disparus, il faut s'entendre, c'est 43 citoyens et citoyennes qui ont été enlevés par la police et la mafia. On ne sait pas son où. On estime qu'ont probablement, à l'heure qu'il ait été assassiné pour leurs opinions politiques. Et donc, il y a un mouvement mondial qui dénonce, évidemment, c'est un crime assez abominable, c'est assez impensable. Donc, ce lundi, il y a une personne, ce lundi 1er décembre, il y a une personne sur Facebook qui vous invite à une manifestation contre ce crime horrible à 18h30 devant l'Assemblée nationale. Mardi 2 décembre, le soir, il y a aussi une personne qui convoque une réunion de planification pour d'autres activités sur le sujet. Vous pouvez voir le média réseauforum.org pour le lieu et les autres détails. Mardi 2 décembre, en 10h et 15h, il y a un marché de Noël responsable à l'Université Laval, pavillon d'Oconnay. Donc, ils vont vous montrer différents trucs pour éviter la surconsommation et la production excessive de déchets durant le temps des fêtes. Mercredi 3 décembre, la Coalition pour la justice sociale vous invite à vous afficher contre l'austérité. Exemple, une affiche dans votre fenêtre, sur votre galerie, etc. Mais aussi, le mercredi 3 décembre, il y a une projection à 19h d'un court documentaire sur l'opinion des gens sur l'île d'Anticosti.
qui, comme vous le savez, risque de voir de l'exploitation du dit gaz de schiste sur leur île. C'est au bar coop coopératif L'Agité, 251 Dorchester. Jeudi 4 décembre à 15h30, il y a le café Quoi de neuf dans Saint-Roch. Donc, vous pouvez venir prendre un café tout en discutant des enjeux du quartier Saint-Roch. C'est à l'espace Galerie Sherpa, c'est-à-dire le 130 boulevard Charest-Est. C'est un bâtiment assez coloré, difficile à manquer. Vendredi 5 décembre à 19h, vous pouvez venir fêter tout en appuyant l'Orfolina Joy Valley au Kenya. C'est un spectacle bénéfice à la Ninkasi du Faubourg sur la rue Saint-Jean. 100% des fonds amassés iront à l'Orfolina au Kenya. Et je connais indirectement les bénévoles impliqués. Donc, je vous assure, c'est très authentique. L'argent va vraiment aller à 100% à l'Orfolina en question. Samedi prochain, le 6 décembre, il y a une action pour la Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes. Évidemment, 6 décembre, ça réfère au massacre de la Polytechnique. Le rassemblement est à 12h45. Ou, si vous préférez, à 1h moins quart, à Place Laurier, c'est-à-dire l'entrée de Place Laurier, qui est vis-à-vis du centre hospitalier. Et en conclusion, samedi et dimanche prochain, les Amis de la Terre organisent un petit marché de Noël dans le hall d'entrée du Centre culture et environnement Frédéric Bach. Donc, le Centre culture et environnement, c'est au 870 Avenue Salaberry. Ça va être ouvert de 10h à 16h, samedi et dimanche prochain. Donc, vous pouvez suivre tout ça sur le média Réseau Forum. .org. Il y a d'autres événements qui vont être publiés durant la semaine. En fait, le média en ajoute à peu près 20 par semaine.
T'es terminé?
Bien oui.
Mon Dieu, ça finit sec. C'est bon. Alors, on va devoir conclure notre émission pour laisser la place aux geeks qu'on a bien hâte d'écouter. Mais on arrive donc à la fin. On va remercier toute l'équipe. Lançons-nous des fleurs, chers comparses. Donc, Étienne qui a travaillé d'arrache-pied à la programmation cette semaine et Michael pour la musique et pour préparer aussi le contenu. Et ensuite, à la technique, Michael et puis moi qui a animé. Pour écouter en ligne nos émissions ou pour commenter, on vous invite à aller visiter legraindesableqc.wordpress.com. Vous allez trouver tous les liens vers ce qu'on a cité aujourd'hui sur notre page Facebook également. Et n'hésitez pas à nous envoyer des suggestions et commentaires. Demeurez à l'antenne pour écouter donc nos chers amis les geeks qui contre-attaquent toujours sur les ondes de CKRL 89.1, la radio qui cultive vos goûts.
Téléchargez Le Grain de Sable sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.
89.1.
Inni, maman.
Ludo, la lu. Lily, le lit.
Oh, merci.
Lucas, le lira.
Grâce à la lecture en cadeau, des milliers d'enfants défavorisés auront accès à un livre neuf, souvent pour la première fois de leur jeune vie. Achetez un livre jeunesse et déposez-le dans une boîte prévue à cet effet dans une librairie participante. À la Fondation pour l'alphabétisation, nous croyons que qui a lu, lira. Plus de détails sur lalectureencadeau.org.
Après un retour réussi l'an dernier, la Ligue d'improvisation musicale de Québec bat son plein pour la saison 2014-2015. Regroupant de talentueux musiciens issus de la scène musicale de la Ville de Québec, des matchs mensuels sont présentés au Cercle. Le 1er décembre, les Bleus rencontrent les Rouges. Pour plus d'informations, la constitution des équipes, des tirages et bien plus, retrouvez-nous sur Facebook.
Pourquoi choisir
Matelas Confort? Parce que les prix du fabricant sont les plus bas.
Chez Matelas Confort, vous aurez toujours la meilleure offre, c'est garanti. En tout temps, présentez-nous n'importe quelle offre de la compétition et nous la surpasserons. Pour profiter des meilleurs rapports qualité-prix, rendez-vous chez
Matelas Confort,
1605 boulevard Henri Bourassa.
Alors, est-ce que monsieur a choisi?
Oui, je vais prendre le tartare de saumon, s'il vous plaît.
Donc, le tartare de saumon, plus les joues de bœuf, le risotto aux cèpes, le feuilleté de légumes...
Ah non, excusez.
La bisque de homard, la poutine au foie gras...
Excusez.
La salade d'artichaut...
Mais...
Et le poulet de cornouailles aux abricots façon marocaine. Ce sera tout?
Ouais.
Attendez-vous à plus. Avec la carte boutique voir.ca, vous recevez jusqu'à 40% de plus chez vos marchands favoris. Passez-nous voir sur boutiquevoir.ca.
Thank you.
Québec.
En direct des légendaires studios de Limoilou, CKRL présente le Geek Contre-Attaque avec Éric Lajoie, Simon Boucher, Philippe Jacques, Laurent Meur, Sabrina Cloutier, Simon Trudeau, Conan Arsenault et l'Omnipotent Mikey G.
Alors nous sommes samedi le
29.
Le 29 novembre, voilà, 2014. Bienvenue à cette édition tout à fait spéciale des Geeks Contre-Attaque. Parce que d'un, nous sommes nombreux. We are many.
Édition surchargée.
Oui, donc, first, j'ai avec moi mon fidèle collaborateur Simon Boucher. Salut, mister.
Bonjour, bonjour.
Ensuite, on a un old school, comme on dit en anglais.